Laudetur Jesus Christus.
L'offensive russe se poursuit dans le Donbass avec un feu nourri russe sur de nombreuses villes de la région. Le Donbass où Moscou tente d'imprimer sa marque en facilitant par exemple l'attribution de la nationalité russe pour les citoyens de la région. Nous irons à Moscou, début de ce journal. À la une également de ce journal, l'Australie qui reverdit. Le nouveau gouvernement ne cache pas ses ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une rupture avec l'administration sortante. Dans ce journal, nous irons également au Sri Lanka où le gouvernement souhaite accélérer les négociations avec le FMI pour une aide financière internationale. Et puis détour à la fin de ce journal au Zimbabwe. Le pays fait face à une surpopulation d'éléphants et demande de pouvoir commercier son ivoire, une manne qui serait bienvenue selon les autorités du pays frappé par une grave crise économique.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, avant de développer tous ces titres, cette information du Vatican, pour clore ce mois marial, le pape François récitera la prière du rosaire pour la paix en la basilique de Sainte-Marie-Majeure de Rome. Un temps de prière qui se tiendra mardi prochain, 31 mai, à 18h. Un acte d'espérance pour le monde auquel sont conviés tous les fidèles. Plus d'informations que vous retrouverez sur notre site vaticannews.va. La paix, elle, semble bien loin dans l'est de l'Ukraine. Les combats se poursuivent avec une intensité importante dans la région du Donbass, plus de 40 villes de la région ont été bombardées ces dernières heures. La ville industrielle de Sievero-Donetsk est presque assiégée par l'armée russe et est en train d'être détruite, s'est inquiété le gouverneur de la région de Louhansk. Beaucoup redoutent une situation comparable à Mariupol, cette ville portuaire sur la mer Noire, tombée aux mains des troupes russes après un long et meurtrier siège. Fort de ces offensives concentrées dans le Donbass, la Russie fait tout pour s'y assurer une présence à long terme. Moscou a ainsi mis en place une procédure simplifiée pour l'attribution de la nationalité russe à destination des citoyens du Donbass. Le décret de loi a été signé hier soir par Vladimir Poutine. Les précisions de notre correspondant Jean-Didier Revoin.
Les habitants des régions ukrainiennes de Zaporijjia et de Kherson, désormais contrôlées par Moscou, pourront rapidement obtenir la nationalité russe. Pour les autorités locales, arrivées au pouvoir avec l'aide des soldats russes, cela signifie que la Russie n'est pas là pour longtemps mais pour toujours. Une pratique qui n'est pas nouvelle. Moscou avait procédé de la même façon en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée. Selon le décret signé hier par Vladimir Poutine, ces facilitations s'appliquent également aux habitants des régions de Donetsk et de Lugansk, dont les hommes combattent aux côtés des forces russes. Cela va permettre d'accélérer notre intégration et notre retour à la maison au sein de la Russie, a souligné Vladimir Rogov, responsable pro-russe de la partie de la région de Zaporijjia contrôlée par Moscou. Depuis lundi, les autorités pro-russes de Kherson ont pour leur part annoncé l'instauration du rouble en parallèle à la hryvnia ukrainienne. Elles espèrent que d'ici la fin de l'année, le rouble sera la seule devise reconnue dans leur région. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
L'Ukraine, il en a été beaucoup question aussi au Forum mondial économique de Davos en Suisse qui s'achève ce jeudi. Ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz y a prononcé un discours. Il s'est dit convaincu que la Russie ne gagnerait pas cette guerre en Ukraine et que Vladimir Poutine ne saurait dicter la paix. Fin de citation. Au sommaire de l'actualité également, l'Australie où le nouveau Premier ministre Anthony Albanese investi en début de semaine entend faire revenir son pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement australien tout juste nommé semble vouloir ne pas perdre de temps. Ce jeudi, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, est à Suva, c'est dans les îles Fidji, avec Marine Henriot, des promesses pour préserver l'environnement.
Oui Olivier, c'est la première visite de la nouvelle chef de la diplomatie australienne, hautement symbolique. Les îles Fidji, comme de nombreux L'archipel dans la région souffre déjà beaucoup des changements climatiques et notamment de la montée des eaux, alors qu'ils sont pourtant peu responsables du réchauffement par rapport à un colosse comme l'Australie. Et avec l'ancien gouvernement australien climato-sceptique, les relations entre Canberra et les îles Fidji étaient pour le moins tendues. Aujourd'hui, Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères de l'Australie, dit vouloir renverser la balance. Elle propose notamment de co-organiser une COP sur le climat avec ses alliés du Pacifique. Elle assure que Canberra ne manquera plus de respect envers les nations du Pacifique et répète que le programme de la nouvelle équipe dirigeante prévoit une réduction des gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Cependant, les mesures concrètes pour arriver à cet objectif ne sont pas dévoilées pour l'instant et il reste toujours un point noir entre Canberra et ses voisins du Pacifique, la production et l'exportation de charbon, notamment vers la Chine. Le nouveau gouvernement australien est pour l'instant flou sur le futur de son industrie charbon.
Marine Henriot. Merci beaucoup. La Chine n'a aucune intention de construire une base militaire sur les îles Salomon. Déclaration tout à l'heure du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Il a entamé aujourd'hui une tournée dans plusieurs pays du Pacifique Sud, où il sera notamment question d'une vaste initiative qui vise à étendre la coopération en matière de sécurité et de libre-échange dans la région. Le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr. entend lui défendre les droits de son pays face aux ambitions régionales de la Chine. Les Philippines ne laisseront pas piétiner leurs droits par Pékin en mer de Chine méridionale, a-t-il déclaré ce matin devant la presse. Ferdinand Marcos Jr. qui sera investi officiellement le mois prochain. Direction le Sri Lanka où le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a pris hier les rênes du ministère des Finances. Il tente désormais d'accélérer les négociations avec le Fonds monétaire international et la communauté internationale pour obtenir une aide financière cruciale pour le pays et le sortir de la grave crise économique et sociale. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
Près de deux mois après le début des manifestations contre le président Gotabaya Rajapaksa, la crise continue. L'île n'arrive toujours pas à augmenter ses réserves de change et est incapable d'importer. Les Sri Lankais ne peuvent même plus acheter de l'essence et la colère continue. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe doit donc agir vite face à la population qui demande sa démission, ainsi que celle du président. Hier, il s'est engagé à obtenir un prêt du FMI d'ici trois semaines. S'il y parvient, le chef du gouvernement estime qu'il sera plus facile d'obtenir d'autres aides financières de la part du Japon, de la Chine et des institutions financières internationales. Colombo cherche à lever 4 milliards de dollars. Même si elle y arrive, cela ne réglera pas la crise tout de suite. Alors Ranil Wickremesinghe affirme préparer un budget axé sur la baisse des dépenses publiques d'ici la mi-juin, avec le risque de devoir baisser les allocations pour le système de santé et l'éducation publique. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan, renversé le 10 avril dernier, est revenu ce matin dans la capitale Islamabad, accompagné de milliers de partisans. Il a invité les autorités à organiser de nouvelles élections d'ici six jours. Imran Khan, ancien joueur de cricket, avait été élu à la tête du gouvernement en 2018. Il estime que le gouvernement actuel pakistanais est illégitime et imposé de l'étranger. On a appris cette information. Deux prêtres ont été enlevés le 25 mai dans le diocèse de Sokoto, dans l'état de Katsina, au nord du Nigeria. Le prêtre de la paroisse catholique Saint-Patrick et son vicaire ont été enlevés, ainsi que deux jeunes garçons qui se trouvaient dans la maison. Information communiquée hier par le diocèse catholique de Sokoto. C'est dans ce même diocèse qu'une jeune étudiante chrétienne a été lynchée au début du mois de mai. C'est une demande qui revient de plus en plus souvent de la part des pays d'Afrique australe. Le Zimbabwe réclame à la communauté internationale de pouvoir commercialiser son ivoire, acquis par mort naturelle ou par confiscation, une pratique aujourd'hui interdite. Selon les autorités zimbabwéennes, les revenus seraient utilisés pour mieux protéger la population croissante des éléphants dans la réserve du pays touchée par une grave crise économique. La correspondance régionale de Gabriel Porometo.
136 tonnes de défense de cornes d'une valeur estimée à 570 millions d'euros. C'est la réserve d'ivoire que possède actuellement le Zimbabwe et qu'il souhaiterait désormais vendre. Depuis 1989, le commerce mondial d'ivoire est interdit. Une interdiction que les pays d'Afrique australe remettent en cause depuis plusieurs années. Alors que les éléphants sont menacés sur le continent, cette région connaît une surpopulation. Avec 100 000 spécimens, le Zimbabwe possède un quart des éléphants d'Afrique. Selon le gouvernement, cette vente permettrait de mieux gérer sa population d'éléphants en la protégeant, mais aussi en protégeant les habitants qui doivent cohabiter avec ces animaux dangereux. Depuis le début de l'année, 60 personnes sont déjà mortes dans des accidents impliquant des éléphants qui causent aussi des dégâts aux cultures. Mais pour les détracteurs du projet, toute vente légale d'ivoire ne fait qu'augmenter le braconnage. En 2008, une vente similaire avait été autorisée et avait ensuite entraîné une très forte augmentation des ventes illégales du fait de la hausse de la demande. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, un mot de Tunisie où le président Kais Saied a officialisé la date du 25 juillet prochain pour la tenue d'un référendum sur une constitution amendée. Une constitution censée marquer l'avènement d'une nouvelle république tunisienne et ce malgré les nombreuses critiques qui dénoncent ce processus. Cette date du 25 juillet que Kais Saied avait unilatéralement fixée au mois de décembre a été officialisée dans un décret présidentiel. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marine Henriot. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.